Excusez-moi, dans le Lévitique. Voilà, tu peux mettre le texte maintenant. Au chapitre 11. Et au verset 29. Lévitique, chapitre 11, verset 29. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Et au chapitre 11, toujours, mais au verset 43, il est dit « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Amen. » Parmi donc les animaux que les Juifs dans l'Ancien Testament devaient considérer comme impurs et avec lesquels ils devaient éviter tout contact afin de ne pas devenir eux-mêmes impurs, il y avait donc le caméléon. Et vous le savez certainement, le caméléon, du moins certaines espèces, ont une caractéristique très particulière. On appelle ça le mimétisme, ce qui consiste à changer de couleur en fonction du milieu ambiant. On vous a projeté deux images. Le premier caméléon qui était dans un environnement vert, et le caméléon était vert. Et puis une autre image dans laquelle le caméléon était dans un milieu de terre, ocre ou quelque chose comme ça, et lui-même prenait la teinte du milieu ambiant. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la biologie animale, mais ce phénomène est dû aux cellules de la peau du caméléon qui ont donc la capacité de s'adapter, de changer de teinte. Et ceci pour une raison bien, bien particulière. En fait, c'est une tenue de camouflage. Vous voyez ? Cette technique lui permet de passer au caméléon inaperçu, de ne pas se faire remarquer, de ne pas se faire repérer, et il échappe ainsi aux prédateurs qui voudraient le dévorer. Voilà. Alors, je dirais, chers amis, que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous qui nous réclamons du nom du Seigneur, qui affirmons notre foi en Jésus-Christ, qui la revendiquons même, nous ne devons pas être des caméléons spirituels, ce qui nous rendrait impurs aux yeux de Dieu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, des caméléons spirituels? Ça veut dire que nous ne devons pas modifier notre comportement, notre attitude, notre langage, en fonction du milieu dans lequel nous nous trouvons, en fonction des gens que nous côtoyons. Ce serait être un caméléon spirituel que de se comporter comme un chrétien, avoir l'attitude d'un chrétien, le langage de chrétien quand nous sommes avec des chrétiens, et à l'inverse, se comporter comme un païen, comme un incroyant, avoir l'attitude d'un païen, le langage d'un païen quand nous sommes en présence de païens. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ne pas modifier notre attitude, notre comportement en fonction du milieu ambiant. Parce que si nous faisions ainsi, nous serions des caméléons, c'est-à-dire en fait des hypocrites. Et je ne sais si vous avez remarqué ce fait, c'est que Jésus n'a jamais été aussi sévère qu'avec les hypocrites. Il les dénoncera d'une manière ferme, je dirais même rude. Par exemple, il dira à ses disciples, avant toute chose, gardez-vous du levain, de la mauvaise influence des pharisiens, vous voyez, ces hommes religieux, qui est l'hypocrisie. Oui, le Seigneur a horreur des hypocrites. Il n'a jamais été aussi sévère qu'avec les pharisiens religieux, justement, qui, ces gens-là, pour la plupart d'entre eux, se contentaient de soigner les apparences. Ils avaient l'apparence d'un bon croyant, d'un bon juif, d'un bon israélite à l'époque, mais ils n'en avaient pas la réalité. Et dans l'évangile de Matthieu, vous vérifierez au chapitre 23, à plusieurs reprises, Jésus les dénonce en disant « scribes et pharisiens hypocrites ». Alors, le mot « hypocrite » a un sens très particulier. Ça vient d'un terme grec, « hypocritos », je crois, qui signifie « comédien ». Jouer un rôle, acteur. Vous voyez, dans le théâtre antique, le théâtre grec, les acteurs portaient un masque. Et chaque masque représentait un personnage. Eh bien, c'est ça l'hypocrite. L'hypocrite, dans le sens précis du terme, c'est un comédien. C'est celui qui porte un masque. C'est celui qui fait semblant, qui a une attitude qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'il est. Et tenez, parlant des pharisiens, Jésus disait qu'ils faisaient toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est-à-dire pour être approuvé, pour être apprécié, pour être admiré par les hommes, oubliant que, en fait, c'est Dieu qu'il s'agit de satisfaire. C'est à Dieu qu'il s'agit de plaire. Et il les traitera, ces pharisiens, de sépulcres blanchis, voyez, en disant, vous ressemblez à ces tombeaux que l'on peint, que l'on badigeonne de chaux, là, qui sont blanchis, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'impureté, d'ossements desséchés. Il leur disait à ces pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, et l'intérieur, votre intérieur, est plein de rapines, de méchanceté, d'hypocrisie. Vous voyez ? Ils nettoyaient les apparences. Oh, qu'est-ce qu'ils sont spirituels ! Et Dieu regardait leur cœur. Dieu regardait leur cœur. Il dit, commencez donc par nettoyer l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne net. Voyez ? Non pas que l'extérieur soit sans importance, mais ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par le dedans, par le cœur. Et lorsque le cœur est purifié et que le Seigneur a accès à notre cœur, alors aussi, ce qui est à l'extérieur de notre personne, eh bien, sera transformé. Il faut commencer par le dedans. Je rappelle que nous n'avons pas, comme le caméléon, changé de peau, mais nous avons changé de cœur. Alléluia. C'est ça la conversion, non? C'est pas depuis que je suis converti, je mets un complet cravate quand je viens au culte. C'est plus que ça. Ce n'est pas interdit d'avoir une cravate. Moi, j'aime ça. Hein? Chacun ses goûts. Mais ce n'est pas ça tout d'abord, la vie chrétienne. C'est un changement de cœur. David avait raison quand dans le psaume 51, il fait monter vers Dieu cette prière, réalisant que par nature, son cœur est mauvais, par nature, son cœur est pervers, tordu, pécheur, il y a, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, je ne veux pas simplement soigner les apparences, le visuel, mais crée en moi un cœur pur. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, le Seigneur fait cette promesse, il dit « J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Et je ferai ainsi qu'ils obéissent à ma parole et mes commandements. » Voyez, ce cœur dur, ce cœur méchant, ce cœur orgueilleux, ce cœur jaloux, ce cœur plein de convoitises, etc., etc., ce cœur de pierre, je l'enlèverai, j'opérerai, disons-le comme ça, une transplantation cardiaque spirituelle. J'enlèverai ce mauvais cœur et je mettrai à la place un cœur nouveau. Amen. C'est ce que Jésus a voulu faire dans notre vie. C'est ça la conversion. Parce que si ce n'est pas ça, on n'a rien compris, mes amis. S'il s'agit simplement d'avoir été trempé dans le baptistère et que ça s'arrête là, on n'a rien compris. Un changement de cœur qui va produire évidemment un changement de vie. Et c'est pourquoi le Seigneur dira, donne-moi ton cœur. C'est dans le livre des Proverbes. Donne-moi ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Est-ce que vous avez donné votre cœur au Seigneur? Parce que quand on lui donne notre cœur, on donne tout, n'est-ce pas? Non? Lorsque un jeune homme rencontre une jeune fille et qu'il lui donne son cœur, et inversement, ça veut dire qu'ils se donnent mutuellement leur vie, non? Voilà. On a gagné le cœur de notre bien-aimé, et en retour, on lui donne notre cœur. Eh bien, le Seigneur a gagné la partie en ce qui nous concerne. Il nous a conquis, alléluia! Ne vous traumatisez pas de l'expression que je vais employer. Je dirais que quelque part, spirituellement parlant, nous sommes devenus amoureux de Jésus. Parce que nous avons réalisé qu'il nous a aimés le premier. Et en retour de l'amour qu'il nous a porté en donnant sa vie jusqu'à la croix, c'est jusque-là qu'il a été. Nous lui avons donné notre cœur. Et il a changé notre cœur. Oui ou non? Est-ce qu'il a changé votre vie? Bien sûr, on est conscient des progrès qu'il nous reste à faire. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose n'est passé. Un vieux cantique disait, je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. C'est ce que Jésus dit d'une autre manière dans l'évangile de Jean, chapitre 3, rappelez-vous, quand il dit qu'il faut naître de nouveau. Voilà, Nicodème se... Ce religieux, mais pas un religieux hypocrite finalement. Un religieux sérieux, mais à qui manquait l'essentiel. Voyez, toutes les cérémonies qui se déroulaient dans le temple de Jérusalem, il y assistait. Il y assistait. Et il aborde avec Jésus, tout au moins il essaie, un dialogue de religieux. Nous savons que tu es un docteur, c'est-à-dire un enseignant, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous, etc. Autrement dit, on va se comprendre, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Tu es un enseignant, un docteur, moi aussi, Nicodème. Je suis un enseignant, docteur, donc ça devrait coller. Et Jésus va le décontenancer. Il lui dit, Nicodème, laisse tomber tout ça. Écoute-moi, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il dégringole de son piédestal, mais comment cela peut-il se faire? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, ce n'est pas suffisant ce que tu pratiques. Ta religiosité, ta bigoterie, tes sacrifices à l'infini, tes cérémonies religieuses qui se déroulent les unes après les autres, ce n'est pas ça l'essentiel, c'est que tu naisses de nouveau. Et peut-être que ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? J'ai parfois entendu des gens me dire, vous savez, j'ai été baptisé, mais je me suis converti plus tard. Je me suis baptisé, mais le jour où j'étais baptisé, j'avais encore rien compris. Et puis, finalement, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a persuadé que, certes, j'avais eu la forme extérieure du baptême, mais mon cœur n'avait pas été régénéré, touché au fond de moi-même. Alors, mon esprit s'est ouvert. Alors, je me suis humilié. Repenti. Et là, je suis né de nouveau. Alléluia. Je suis né de nouveau. Le Seigneur désire que nous soyons vrais et intègres. Vous voyez, pas des caméléons. Pas des gens qui changent d'aspect en fonction du milieu dans lequel ils se trouvent. Chrétiens avec les chrétiens, païens avec les païens. Non ! Même les ennemis de Jésus disait ceci, nous savons que tu es vrai et que tu annonces la voie de la vérité sans t'inquiéter de personne. Voilà. Autrement dit, tu es toujours le même. Quels que soient tes auditeurs, quels que soient les gens que tu côtoies, tu ne joues pas la comédie, tu ne fais pas semblant, tu es vrai, tu es intègre. Le mot intègre signifie littéralement être entier, être complet, vous voyez, pas mi-figue, mi-raisin, pas je ménage la chèvre et le chou, mais entier, entier, d'une seule pièce. Que Dieu puisse trouver en nous des des gens qui ne se laisseront pas influencer, ni contaminer, ni corrompre, ni pervertir par leur entourage. Pas de croyants qui veulent passer inaperçus, ne pas se faire repérer, de peur des représailles, d'être moqués, critiqués, rejetés, calomniés, persécutés. Vous voyez le caméléon, change de couleur pour passer inaperçu. On ne le voit pas, on ne le voit plus. Hein? On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Donc les prédateurs, les ennemis qu'il a, les autres animaux qui voudraient le croquer, ne le distinguent pas dans cet environnement. Parce qu'il s'est fondu dans la masse. Parce qu'il a pris la teinte du milieu ambiant. Ce n'est pas comme ça que doit être un chrétien. Il doit se démarquer. Des croyants authentiques, qui sans être des fanatiques, non, il ne s'agit pas de ça, sans être des farfelus, sans être des déséquilibrés, eh bien, vivront et témoigneront de leur foi au grand jour. Alléluia. Sans crainte ni honte. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui a rejeté Dieu. Et vous n'avez pas à avoir honte de votre foi, vous devez en être fiers. Vous devrez relever la tête et non pas raser les murs en disant « Oh là là, qu'on ne me repère pas ». Parce que sinon, dans mon travail, dans mon quartier, dans ma famille, j'aurai des histoires. Tant pis ! Revendiquez votre foi chrétienne. Revendiquez votre foi chrétienne. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, j'ai oublié le verset, « Vous êtes le sel de la terre. » Vous êtes le sel de la terre. C'est une image très évocatrice. Le sel imprègne tous les aliments avec lesquels il entre en contact. Quand, je ne sais pas moi, hein, le plat qu'on va vous servir à midi, c'est peut-être pas le meilleur, mais enfin, supposez que ce soit un plat de nouilles. Hein. Vous trouvez que ça manquait de sel, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le sel juste sur le bord? Non. Vous saupoudrez de sel toute l'assiette, et puis peut-être même avec la fourchette, vous allez remuer pour que ça se mélange bien, pour que ça imprègne tous les aliments, n'est-ce pas, pour leur communiquer la saveur du sel. Eh bien, telle est notre fonction, nous, croyants. Jésus l'a dit, nous ne sommes pas du monde, nous nous démarquons par rapport à l'état d'esprit, la mentalité, le comportement, le langage, et même parfois la tenue des gens du monde, mais nous sommes dans le monde. Dans le monde. Nous ne devons pas nous en exclure. Mais nous devons y exercer une bonne et saine influence. Les chrétiens que vous êtes, le chrétien que je suis, nous devons être des gens remarquables pour qu'au travers de nous, Dieu soit glorifié. Alléluia. J'aime ce que Dieu dit à propos de Job. Vous avez lu le livre de Job? Comment ça commence? Job était un homme intègre, tiens, on y revient, et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et c'était tellement vrai que Dieu va dire à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. As-tu remarqué ?» Job était un homme remarquable, parce que c'était un croyant authentique, pas un caméléon, comme on disait tout à l'heure. Et que Dieu trouve en nous des gens remarquables, non pas pour qu'on les élève, non pas pour qu'on dise « Oh, cet homme, c'est quelqu'un de formidable, cette femme, c'est une femme merveilleuse », mais qu'au travers de notre vie, Christ soit glorifié. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Le sel aussi combat la corruption. Hein? C'est pour ça qu'on sale les jambons qui ne sont pas cuits et qui se conservent pourtant, comment? Par l'effet du sel. Eh bien, en tant que croyants, nous devons faire la preuve, la démonstration que par la grâce de Dieu, c'est possible, alléluia, de mener une vie saine et pure. Nous avons un grand défi à relever. Dans ce monde, vous le savez, il y a la malhonnêteté. Eh bien, faisons la démonstration que nous sommes des gens honnêtes. Dans ce monde, il y a le mensonge, la tromperie. Eh bien, faisons la démonstration que nous sommes des gens vrais, de cœur et de parole. Dans ce monde, il y a la soulure, l'infidélité. Eh bien, faisons la démonstration que nous sommes capables d'être des époux, des épouses fidèles dans notre comportement. Et nous serons ainsi le sel de la terre. Jésus a dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Vous savez que, paraît-il, j'ai lu ça quelque part, une petite bougie allumée au milieu de la nuit la plus noire, si la terre est plate, hein, peut se voir à des kilomètres. Vous êtes la lumière du monde. Nous devons répandre la lumière de Christ, là où règnent les ténèbres. Dans la Bible, les ténèbres représentent spirituellement l'ignorance, l'erreur, les fausses doctrines, l'action des puissances maléfiques. Eh bien, nous, chrétiens, nous devons briller de la lumière de Christ pour dissiper les ténèbres. Quand on est perdu dans la nuit noire et qu'on voit une lumière, qu'est-ce qu'on fait? On va se diriger vers la lumière. On se dit, là, il y a la vie. Là, il y a la sécurité. Là, il y a la chaleur. Je suis perdu, je suis paumé l'obscurité la plus sombre, mais il y a une lumière. Alors, pour être tiré d'affaire, pour sortir de mes ténèbres et de mon obscurité, je me dirige vers la lumière. Eh bien, si nous sommes animés de la lumière de Christ, c'est ce qui va se passer. Nous attirerons les gens par cette lumière spirituelle qui émanera de notre personne. Le Seigneur a dit encore quelque part, vous êtes la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Je ne sais pas comme quel parfum vous portez, mesdames, hein, Nina Ricci ou Coco Chanel ou autre chose, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. La bonne odeur de Christ, le parfum de Jésus. Spirituellement parlant, vous en conviendrez, dans ce monde, eh bien, ça sent la mort, c'est pas vrai? C'est la pestilence, des odeurs nauséabondes. Mais portons-y une odeur de vie, une odeur de sainteté et de pureté. Quand je parle de sainteté, vous savez, les gens ont une fausse image de la sainteté. Ils pensent que c'est être sérieux comme un pape, austère à l'extrême, raide comme un passe-lacé. C'est pas ça, la sainteté. La sainteté, c'est une vie qui s'abstient du péché, tout simplement. Qui se tient éloigné du mal et qui, en retour, pratique le bien. Et faisant ainsi, dans le milieu où nous sommes, même au milieu des païens, comme ce n'est pas possible de l'être, eh bien nous serons la bonne odeur de Christ. Partout, en toute occasion, en tout lieu. Dans quelques jours, ce sera les fêtes de fin d'année, et vous allez vous retrouver parmi votre famille, ce qui est légitime, vos amis peut-être. Peut-être y aura-t-il un repas d'entreprise. Peut-être aurez-vous d'autres occasions, vous serez dans ce milieu ambiant qui n'est pas toujours le plus sain, S.A.I.N. Eh bien, il faut que là, frères et sœurs, vous soyez, nous soyons, je sois le sel de la terre, la lumière du monde, la bonne odeur de Christ. Dans la parole de Dieu, il y a des exemples. Par exemple, dans l'épître de Paul aux Philippiens, tenez, on peut y lire si vous voulez, au chapitre 1er et au verset 12, Philippiens chapitre 1er verset 12, voici ce que l'apôtre Paul écrit. Alors je rappelle ceci, c'est que quand Paul a rédigé cette lettre, il était prisonnier à Rome, en attendant de comparaître devant l'empereur, le sinistre Néron, pour y être jugé. Non pas qu'il ait fait quelque chose de mal, mais il était accusé faussement, injustement. Et voici ce qu'il dit dans Philippiens, chapitre 1er, verset 12. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, l'emprisonnement donc, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, écoutez ça, dans le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Ça mérite quelques explications. Le prétoire, à Rome, c'était la caserne des prétoriens. Les prétoriens étaient les membres de la garde impériale. Vous voyez, ce corps d'élite qui était chargé de la protection, la police de sécurité de l'empereur, si vous voulez bien. Et chaque jour, l'un des membres de cette garde impériale était chargé de garder Paul. Alors, voilà comment ça se passait. Paul était enchaîné à un soldat. De temps en temps, on changeait le soldat lorsqu'il avait terminé son tour de garde, mais on gardait le prisonnier. Et jour et nuit, eh bien, l'apôtre Paul était relié, voilà, par cette chaîne, à un soldat, à un prétorien, à un membre de la garde du prétoire. Et il dira, dans tout le prétoire, c'est-à-dire dans toute cette caserne, et même partout ailleurs à Rome, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Est-ce que nous pouvons en dire autant? Est-ce que nous pouvons dire dans mon quartier, dans mon lieu de travail, dans mon lycée pour les jeunes, dans mon université pour les étudiants, dans ma famille, est-ce que personne n'ignore que je suis un chrétien? Est-ce que tous savent que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je me suis préoccupé de rendre témoignage en acte, mais aussi en parole? Voilà, moi je suis impressionné par cette phrase. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore. Pourtant, vous savez, les membres de la garde prétorienne, c'était des légionnaires, des hommes, comme on dit chez moi, de sac et de corde. Des soldats, des soudards, des hommes qui étaient habitués à la violence, à la guerre, au combat. Pas des tendres, pas des petits garçons, pas des efféminés, quoi. Eh bien, au milieu de cet environnement hostile à la foi chrétienne, au milieu de ces païens, comme ce n'est pas possible de l'être, Paul disait, aucun d'entre eux n'ignore que je suis dans les chaînes pour Christ. Vous voyez, pas un caméléon, mais un homme qui vivait sa foi au grand jour et devant tous. Il n'était pas là dans l'église, au milieu des frères et sœurs, le dimanche matin. Il était au milieu des païens. Dites jour et nuit, ils aimaient un peu ça. Jour et nuit, être attaché, ficelé, lié à un soldat. Et chaque fois qu'on changeait de soldat, Paul devait lui rendre témoignage. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, dans tout le prétoire, et partout ailleurs dans Rome, et Dieu sait que c'était une grande ville à l'époque déjà, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. À l'inverse, il y a le triste exemple, je sais qu'on y revient souvent, de l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez? Si courageux dans la chambre haute, durant le repas qui a précédé la crucifixion de Jésus. Là, il est bien, hein? Tranquille. Hein? Jésus et ses collègues apôtres. Alors, il ne risque pas grand-chose. Hein? Et il y va de son affirmation péremptoire. Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Et quand bien même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Oh là là, que c'est beau. Mais on connaît la suite. Quelques heures plus tard, changement de décor. C'est plus dans la chambre haute, c'est plus au milieu des collègues apôtres, au milieu des croyants, au milieu des disciples de Jésus, mais c'est au milieu des ennemis de Jésus. Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémane et on l'a conduit dans la maison du souverain sacrificateur pour y être jugé. Et là, il y a les ennemis de Jésus, il y a des gens qui lui cognent dessus, il y a des gens qui lui crachent au visage, il y a des gens qui lui disent « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé !» On se moque de lui, on le ridiculise. Et la Pierre est avec eux, il se chauffe auprès du feu autour duquel les serviteurs du souverain sacrificateur se sont rassemblés. Vous voyez? Et il y en a un, enfin, c'est une servante, une, qui dit « Mais toi là, toi, là, tu ne fais pas partie de la maison. Tu étais avec Jésus dans le jardin là-bas quand on l'a arrêté. Je ne le connais pas. » Un autre insiste une deuxième fois, mais ton langage te fait reconnaître. Tu as l'accent du midi, tu es un Galiléen, tu n'es pas un gars de Jérusalem, tu es un disciple de Jésus. Non, je ne le connais pas. Un autre remet ça une troisième fois et à nouveau. Pierre l'a fait des imprécations. Il jure, n'est-ce pas? Je ne connais pas cet homme. Changement de décor. Changement d'attitude. Un caméléon. qu'il est, Pierre. Heureusement, les choses ne vont pas en rester là. Il va pleurer sur sa misère, sur sa lâcheté, sur son péché, et il finira sa vie en étant un témoin de Jésus jusqu'au martyr, puisque l'histoire que nous apprend que Pierre serait mort, crucifié à Rome. Voyez ? Mais dans cette triste affaire du triple reniement, il fut un caméléon. Que Dieu nous garde à ne pas nous inspirer d'un si triste exemple, mais plutôt nous inspirer de l'exemple de l'apôtre Paul qui pouvait dire, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Alors, il nous faut accepter d'être différents en tant que chrétiens. Et ne pas chercher, je le répète, à se fondre dans la masse pour éviter les problèmes et les ennuis. Jésus nous l'a dit, je le répète, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Il doit y avoir une différence notable. Et des textes de l'Écriture nous disent même, n'aimez pas le monde. Quand la Bible parle du monde dans ce sens-là, c'est pas qu'il faut pas aimer les gens. Chouette, je peux pas m'entendre avec mon voisin, mon collègue, alors je suis un bon chrétien. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est l'état d'esprit qui règne dans le monde, qu'il ne faut pas aimer. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ailleurs, il est encore dit dans l'épître de Jacques, si vous voulez être ami du monde, vous serez ennemi de Dieu. Si vous pactisez avec cet état d'esprit, si vous vous laissez influencer, si vous êtes comme eux, si vous avez agi comme eux, si vous parlez comme eux, si vous comportez comme eux, eh bien, vous êtes amis du monde. Vous n'aurez pas de problème, là. Mais vous serez ennemis, le terme est fort, de Dieu. Dans l'épître aux Romains, chapitre 12, versets 1, 2 et 3, Paul dira, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ça s'affiche. Je crois que le terme littéral, c'est un culte logique, un culte sensé, un culte tel que Dieu le veut, le culte dans la pensée biblique. Ce n'est pas ce qui se passe ici, là, de 10 à 12. Le culte, c'est toute notre vie qui doit être un culte. Offrez vos corps. Et la suite dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas un caméléon. Parfait petit chrétien, sa Bible sous le bras le dimanche matin et toute autre chose pendant la semaine. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il ne s'agit pas seulement de l'intelligence cérébrale, mais de l'intelligence de la compréhension spirituelle, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable à ses yeux et ce qui est parfait pour lui. C'est comme ça qu'il nous faut être. Bien sûr que si nous sommes différents, nous serons incompris. Si vous vivez en chrétien, si vous affirmez que vous êtes un chrétien, si vous revendiquez que vous êtes un chrétien, si vous témoignez de Christ, vous ne recevrez pas toujours des applaudissements. Les gens ne vont pas vous congratuler en disant « Mais c'est merveilleux, comment fait-on pour devenir chrétien ?» Ça peut arriver quelquefois, mais pas trop souvent. Hein? Non. Nous serons, si nous sommes différents, incompris. Mais il faut accepter de prendre ce risque. Paul dira dans l'épître à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La piété, qu'est-ce que ça signifie la piété? La piété, ce n'est pas faire des signes de croix ou des genuflexions. La piété, c'est l'attachement de cœur à Dieu. Quelque part dans le livre de Job, il est dit « attache-toi à Dieu ». À Dieu, à ce qui concerne Dieu, à la parole de Dieu, à l'esprit de Dieu, au service de Dieu, à l'église de Dieu. Attache-toi, ça c'est la piété. Attache-toi à ce qui plaît à Dieu, à ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est conforme à la sainteté de Dieu. Attache-toi à Dieu. Et si tu veux vivre comme ça, pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Tu auras des problèmes. On te rejettera. On te calomniera. On te montrera du doigt. On te critiquera. On t'abandonnera. On te rejettera. On dira du mal de toi. Mais c'est le tarif. C'est le prix à payer. Pour être non pas un caméléon, mais un vrai disciple de Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre va nous dire dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 3. Voilà ce qu'il nous dit. 1 Pierre chapitre 4, verset 3. 1 Pierre 4, verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens dans le passé. Avant que je me convertisse, j'étais comme eux, je faisais partie. Ah, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté de Dieu en marchant dans le dérèglement, dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger du boire, les idolâtries criminelles, enfin, tout un tas de choses. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et... Qu'est-ce qui se passe? Ils vous félicitent? Ils vous applaudissent? Ils vous congratulent? Non? Et ils vous calomnient. Et ils vous calomnient. C'est comme ça. C'est ça être disciple de Christ. Mais au chapitre 2, toujours dans la première épître de Pierre, et au verset 12, il est dit ceci. Ayez au milieu des païens, voyez, pas seulement à l'église le dimanche matin, au milieu des païens, demain, lundi, au boulot, à l'université, au collège, au lycée, dans le quartier, dans la famille, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, on retrouve le terme de tout à l'heure, comme si vous étiez des malfaiteurs. Et oui, parce que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Alors aux yeux du monde, nous sommes des malfaiteurs. Des faiseurs de mal, parce que leur morale est renversée, parce que le monde marche à l'envers, sans dessus-dessous, n'est-ce pas? Comme si vous étiez de malfaiteur. Ils remarquent quand même, ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils ne peuvent pas s'empêcher de les voir. Vous rappelez, tout à l'heure, on parlait d'être remarquable, remarqué, repérable. Pas des caméléons qui se faufilent, qui passent partout inaperçus. Mais il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu le jour où il les visitera. Il faut y croire à ça. Qu'il peut y avoir un jour où même le plus dur, le plus méchant avec nous, le plus persécuteur contre nous, eh bien sera visité par l'Esprit de Dieu et se convertira. Lorsque j'étais à Bayonne, nous avions un frère dans l'église qui s'est, j'en ai rendu témoignage déjà, qui s'est converti, je ne sais plus, il devait avoir 45 ans. C'était un ancien sous-officier de la marine nationale. Et il me disait ceci, lorsque j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, et que je naviguais là-bas, en mer de Chine, n'est-ce pas, lorsqu'il y avait la guerre, eh bien, à bord de mon bâtiment, il y avait un chrétien. Et un garçon qui vivait une vie chrétienne authentique. Vous savez quelle est la vie bien souvent des marins lorsqu'ils sont au port, hein, c'est un petit peu moralement la débandade. Et disait lui, il se gardait pur, alors que nous allions faire les 400 coups, lui restait à bord. Et il me disait, je me suis moqué de lui. Je l'ai ennuyé, je l'ai persécuté, je l'ai tourné en dérision, en ridicule. Je lui ai fait toutes les misères possibles et imaginables. Mais voyez, 20 ans ou 25 ans avaient passé, il n'avait jamais oublié le témoignage de ce garçon. Il me dit, j'aimerais tant le retrouver et pouvoir lui dire, tu sais, moi aussi maintenant, je suis devenu un chrétien. Le Dieu dont tu m'as rendu témoignage, le Dieu pour lequel tu as vécu au milieu de cette troupe de marins débauchés, eh bien, il est devenu mon Dieu. Qu'il remarque vos bonnes œuvres au jour où il les visitera. Alors, il faut y croire. On finit. pour ne pas être un caméléon qui change de couleur en fonction du milieu ambiant. Pour ne pas être ni vous ni moi, parce qu'on a tous à se remettre en question quelque part, un hypocrite. Mais pour être de vrais témoins de Jésus, qu'est-ce qu'il nous faut ? La puissance du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans la deuxième épître à Timothée, ce sera le dernier texte qu'on lira, si vous voulez bien. Deuxième à Timothée, chapitre 1er et verset 8. Oh non, même verset 6. Deuxième à Timothée, chapitre 1er, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. D'autres traductions disent la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Écoutez ça, car ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais au contraire, un esprit, il faudrait qu'il y ait un grand E là, parce que c'est de l'esprit de Dieu dont il s'agit, un esprit de force, alléluia, l'esprit de Dieu donne la force, un esprit d'amour, l'esprit de Dieu donne l'amour, et un esprit de sagesse. N'aie donc point honte, vous voyez, ça va, il passe par autre chose, c'est toujours dans la même perspective. Sois rempli de l'Esprit, Timothée. Et voilà ce qui se passera. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'aie donc point honte. Sois pas un caméléon. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre. Ben oui, accepte ça. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Si tu es rempli de l'Esprit, si je suis rempli de l'Esprit, eh bien alors on va se distinguer, on va relever la tête. On ne va pas marcher la tête basse en disant, oh là là, surtout qu'on ne me repère pas, je risquerai d'avoir des ennemis. Mon voisin, mon collègue, mon condisciple, il se moquerait de moi, alors tant pis, tant pis. Qu'on ne me voit pas, qu'on ne sache pas, je vais me fondre dans la masse. Je vais agir comme eux quand ils vont raconter des blagues salaces. Je vais rire avec eux. Comme ça, je n'aurai pas de soucis. Mais si tu n'as pas de soucis avec les hommes, peut-être tu en auras avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu peut nous donner de relever le défi. Vous savez, je me suis converti. Enfin, j'ai fini de donner ma vie au Seigneur. J'avais 15 ou 16 ans et à ma honte, je le dis, à ma honte. Pendant les premières années de ma conversion, j'ai plutôt été un caméléon. Hélas, honte à moi. Et puis j'ai un ami, un copain, qui lui s'est converti un peu plus tard que moi, vers 17 ans. Et contrairement à mon comportement, lui, tout de suite, d'entrée, vous voyez, il a affirmé, il a démontré qu'il était un chrétien. Au lycée dans lequel nous nous trouvions tous les deux, il était connu comme un loup blanc. Les surveillants, eh bien, ils n'en pouvaient plus tellement il était infect. Et du jour au lendemain, il a changé de vie. Non seulement il a changé de vie, mais il a témoigné de sa foi. Et ça, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mon gars, mais c'est comme ça qu'il faut être. Tu n'as rien compris, là. Qu'est-ce que c'est que cette vie chrétienne de minable que tu mènes? Qu'est-ce que c'est que cette vie de chrétien, hein, mes figues, mes raisins? Qu'est-ce que c'est que cette honte de Jésus que tu as? Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé, pas dire que j'y suis arrivé d'un seul coup, mais à changer d'attitude et à témoigner de ma foi. Et tant pis si on se moque. Et vous savez, il y a des gens qui nous surprennent. Il y a parfois des gens qui sont des païens invétérés qui vous donnent des leçons. Un jour, m'est arrivée une aventure. Nous devions, dans la classe, chacun à notre tour, faire un exposé sur le sujet qui nous tenait à cœur. Alors, ça pouvait être le sport, ça pouvait être la musique, ça pouvait être la politique. Et chacun, à tour de rôle, un matin, eh bien, nous faisions un exposé devant la classe et le prof. Et quand mon tour est venu, j'étais chrétien, bien sûr qu'il y avait un sujet qui me tenait à cœur, devinez lequel. Mais à ma honte, j'ai eu honte. Et j'ai pris un sujet quelconque que j'ai traité. Et puis, il y avait dans la classe un garçon qui était très particulier, menait une vie de patachon, vous voyez. Des fois, il arrivait en cours, il avait, pendant toute la nuit précédente, il avait été de bar en bar, je ne vous dis pas dans l'état dans lequel il arrivait en cours. Et un jour, je suis amené à rendre témoignage à ce garçon, et il me dit, Delon, il s'appelait, Delon. Alors, on faisait Delon, hein. Et Delon, pas Alain, hein, l'autre. Il me dit, mais le jour où tu as fait ton exposé, Alain, mais c'est de ça dont tu aurais dû nous parler. J'ai pris une claque monumentale. Vous voyez, ce garçon dont je ne donnais pas 4 sous, qui était un débauché, qui était un gars qui faisait les 400 coups, qui menait une vie de patachon, eh bien, il me disait, c'est de ta foi que tu aurais rendu témoignage. Ne vivez pas la même mésaventure que moi. Ne soyez pas humiliés devant Dieu comme je l'ai été, mais vivons à la face du monde comme de vrais chrétiens. Ne soyons pas des caméléons. Et pour cela, laissons l'Esprit de Dieu nous remplir de puissance, de force, d'autorité spirituelle, de courage, d'hardiesse, d'audace, de foi, d'amour aussi, et de sagesse, que le Seigneur, à vous et à moi, nous vienne en aide, parce que c'est Jésus, crucifié, ressuscité, glorifié, qui répand son esprit sur ses disciples et sur l'Église. Amen. Vous l'avez compris?